Cultivez-vous, l'émission culturelle sur Art & Go. Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique. Le destin de deux naufragés espagnols se trouve bouleversé quand ils furent capturés par les Mayas. Sur plusieurs millénaires, du Honduras au Yucatan, les Mayas ont dominé toutes les autres civilisations d'Amérique centrale par sa durée et son rayonnement. Grâce à ces avancées dans des domaines tels que l'éducation, l'art, l'agriculture, les mathématiques et l'astronomie, elle s'est élevée parmi les cultures les plus marquantes d'Amérique, aux côtés des Aztèques plus au nord et des Incas plus au sud. Malgré une langue et une religion communes, cette civilisation était en réalité fragmentée en de nombreuses cités distinctes. Ce n'est que bien plus tard, lors de son déclin, que les Espagnols entreprennent la conquête de leur territoire. Quand le 12 octobre 492, Christophe Colomb atteint l'archipel des Caraïbes, cette étape marquera le début d'une série d'expéditions visant à explorer ce nouveau monde. Très vite après ce premier voyage, les Espagnols commencent à explorer et à coloniser le continent. Et bientôt, d'autres Européens emboîteront le pas. Toutes ces incursions se feront bien évidemment au détriment de ces habitants autochtones, que Colomb avait baptisés « Indiens ». Dix-neuf ans plus tard, le 15 mars 1511, un navire de la couronne hispanique apparaît depuis une petite ville située dans l'actuelle Colombie pour faire voile en direction de Saint-Domingue. Mais au matin du troisième jour de navigation, une violente tempête éclate. Pendant 7 jours, le pilote tente de maintenir le cap et lutte contre cette mer déchaînée. L'équipage assiste même au spectacle insolite de poissons volants sautant sur le pont du navire. Pour les marins, ce signe est un très mauvais présage. Et leurs craintes se confirment malheureusement. Le 22 mars, le navire finit par faire naufrage au large de la Jamaïque. Évidemment, les conséquences sont dramatiques. Parmi tout l'équipage, seuls 15 hommes et 2 femmes survivent. Ils réussissent à renflouer une embarcation précaire dans laquelle ils s'embarquent sans eau ni nourriture. Parmi eux se trouvent Geronimo de Aguilar et le marin Gonzalo Guerrero. Un épais brouillard les isole complètement au début. Puis, sous un soleil de plomb, pendant 15 jours sans aucun moyen de manœuvrer, ils vogueront au gré des courants marins. Certains tombent comme des mouches, morts de faim et de soif. Ils sont jetés à la mer au fur et à mesure. Geronimo de Aguilar, désespéré, tente même de se suicider avec une épée, mais il en est empêché. Quand ils finissent par toucher terre, il ne reste qu'une dizaine de rescapés. Les survivants tombent inconscients sur le sable de la plage. Mais ils ne seront plus seuls longtemps. Ils sont réveillés par des gens très étranges, parlant une langue inconnue. Leurs visages, peints de rouge et de goudron, ornés de plumes colorées, sont inquiétants. Ils sont vêtus de pagnes, de sandales, armés d'arcs et de flèches, et portant chacun un bouclier. Un clan maya les avait découverts. Ils emportent tous les rescapés et les conduisent le long d'un chemin à travers la jungle jusqu'à la cité-état de Mani. Ils passent devant des temples pyramidaux, des places et des maisons en pierre avec de hauts toits de cocotiers. Jusqu'ici, ils ont marché dans un état semi-inconscient. Mais la surprise finit par les réveiller complètement. Ils se retrouvent au milieu d'une clameur sans précédent, entourés d'une foule excitée. Des milliers de personnes dévisagent les prisonniers. À la fin du parcours, ils les déshabillent et les enduisent entièrement de peinture végétale d'un bleu intense. Puis ils sont regroupés dans une prison improvisée. Pendant ce temps, au sommet et autour de l'une des pyramides, une cérémonie s'organise. Les Espagnols, de leur cellule, observent la manifestation sans en comprendre le sens. Eh bien, ils sont loin de se douter de ce qui les attendent. Au bout d'un moment, deux guerriers viennent chercher le premier captif. Il est emmené jusqu'à l'hôtel, allongé et maintenu de force par quatre prêtres sur une table en pierre triangulaire. L'un des prêtres prononce une allocution très étrange. Ensuite, il se saisit d'un poignard en silex et lui plante dans le torse. Le spectacle qui va suivre est si effrayant que ses autres compagnons sont tétanisés d'horreur. On lui arrache le cœur à vif et des parties sont distribuées puis mangées par les participants. Quatre autres personnes subiront le même sort lors de ce rituel anthropophage. Dans leur cage, les survivants voient avec effroi et terreur leurs compagnons être exécutés, puis dégustés rituellement. La cérémonie, qui a duré des heures jusqu'à tard dans la nuit, se termine enfin. Ils échappent à cette première fournée, mais ils comprennent qu'ils sont destinés à de prochaines festivités sacrificielles et on les gave à cet effet. Mais Aguilar et Guerrero veulent absolument échapper à cette mort horrible. Mourir pour mourir autant que ce soit en s'échappant. Ils profitent de l'obscurité et du relâchement des gardiens pour s'enfuir à toutes jambes. Après quelques jours de marche dans la jungle, se croyant hors de danger, ils entendent au loin les bruits d'une autre tribu qui les ont pris en chasse. À partir de là, pour augmenter leurs chances, ils décident de se séparer. Guerrero s'enfonce plus profondément en territoire maya et Aguilar prend une autre direction. Mais finalement, il est repéré, puis vite capturé par la tribu rivale. Aguilar est emmené dans leur cité, mais cette fois, leur chef décide de l'épargner et le prend comme esclave. Son heure n'était pas encore arrivée. Au fil du temps, Aguilar adopte une attitude d'autopréservation. Il se plie aux ordres et observe une discipline stricte, comme par exemple le comptage précis des jours. Pendant les trois premières années, il est condamné aux travaux forcés. Il doit porter du bois et de l'eau sur son dos, charrier du poisson de la mer jusqu'à l'intérieur des terres, tout en circulant sur d'étroites voies pavées. Il s'adonne aux tâches en gardant un sourire joyeux, une manière de sauver sa vie certainement. Ainsi Aguilar, petit à petit, encourage la confiance des autochtones en se soumettant à leur mode de vie. Puis, il gagne le cœur et la bienveillance de son maître. Il suscite même l'admiration par sa chasteté, qu'il s'efforce de maintenir même lorsque des femmes lui sont offertes. En homme d'église convaincu, il ne quitte jamais la vieille Bible qu'il a réussi à conserver. Il implore Dieu chaque jour pour qu'il puisse retrouver les siens. Mais le cas de Guerrero, qui a débarqué dans une autre tribu, prend une toute autre tournure. Comme Aguilar, il doit servir. Sa situation sera très différente au fil du temps. Il est vendu en tant qu'esclave au chef d'une autre tribu, implantée plus au sud du Yucatan, dans la région de Chactemal. Un jour, lors d'une traversée de fleuve, un incident faillit coûter la vie à une personnalité qu'il servait. Au lieu de s'enfuir, il lui vint en aide et réussit à le sauver des crocodiles qui ne lui auraient laissé aucune chance. Après cet acte glorieux, en récompense, les Mayas l'affranchissent de son statut d'esclave. À présent, un lien fort les unit. Et il adhère corps et âme au mode de vie de ses hôtes. Et en plus, il possède deux choses qui le rendent particulièrement précieux pour les Mayas. L'expérience de la navigation en mer et la connaissance de ces étranges hommes barbus qui commencent à pénétrer sur leur terre. Les Mayas du Chactemal sont des navigateurs qui se livrent le long de la côte au commerce de coquillages, de coton, de plumes, de cacao et de sel. Et les Espagnols, les hommes barbus comme ils les nomment, les impressionnent. Or, Guerrero sait qu'ils ne sont finalement que de simples mortels. Au fil du temps, l'Andalou devient un personnage de haut rang. Il accepte de nombreuses mutilations rituelles et des tatouages mayas. Devenant conseiller militaire du seigneur de la tribu, il épouse la fille de celui-ci. Ce mariage passe pour être la première union entre un Européen et une Indienne. Leurs enfants peuvent être considérés comme les premiers métis à l'origine de la population actuelle du Mexique. Il s'intègre tellement qu'il permettra pour mettre fin à une invasion de sauterelles, de sacrifier sa fille à Chichen Itza, dans la grande ville et centre religieux de la péninsule du Yucatan. 8 ans se sont passés depuis leur naufrage. Aguilar et Guerrero vivent depuis fondus au sein de cette civilisation qu'aucun occidental n'avait jusqu'alors approchée. Et vers la fin février 1519, sous une chaleur écrasante, le navigateur Hernán Cortés accoste à Cozumel avec sa flotte de 10 vaisseaux. Cette île proche de la côte est du Yucatan est en plein pays maya. Son expédition vient de quitter la colonie espagnole de Cuba pour faire route vers la cité de Tenochtitlan, la capitale de l'empire aztèque, encore inconnue des Européens. Pour le conquistador, Cozumel n'est qu'une halte pour éclaircir un mystère. 2 ans auparavant, en 1517, Hernández de Córdoba, qui fut le premier Espagnol à débarquer officiellement dans la région, avait été témoin, avant de mourir, de faits troublants. À 2 reprises, ses hommes et lui avaient entendu des autochtones crier « Castellan, Castellan !» Le castillan est l'une des langues espagnoles. Entendre ces mots pour les conquistadors étonnés signifia que parmi les Mayas, il y aurait la présence d'Hispaniques au cœur de ce territoire, pourtant inexploré à l'époque. L'information reliée jusqu'à Cuba suscite l'étonnement des autorités coloniales. Prenant l'affaire très au sérieux, une expédition navale est organisée par les Espagnols. Il faut absolument connaître le fin mot de l'histoire. Et c'est Cortés qui se chargera de cette mission. Arrivé sur les lieux, celui-ci interroge les chefs mayas de l'île. Et ils furent unanimes dans leurs réponses. Aussi surprenant qu'il n'y paraît, ils avaient bien connu des Espagnols. Ils donnent leur signalement et confirment qu'à seulement 2 jours de distance, dans l'intérieur du pays, des tribus les détiennent comme esclaves. C'était donc vrai. Le conquistador fait envoyer des messagers indiens. En plus des lettres, il leur confie des objets de valeur afin que les prisonniers puissent racheter leur liberté. Dans les lettres, Cortés demande à ses 2 compatriotes de le rejoindre d'ici 1 semaine sur la côte. Les jours passent. Et au moment où les 500 hommes du conquistador s'apprêtent à poursuivre leur expédition en direction des Aztèques, l'incroyable se produit. Un grand canoë accoste. À l'intérieur, plusieurs Mayas, cheveux tressés, vêtus de pagne, armés d'arcs et de flèches. À la vue des soldats ibériques, tous retournent effrayés vers leur embarcation. Sauf un, Aguilar, qui hurle en espagnol « Messieurs, êtes-vous chrétiens ?» La réponse est affirmative. « Oui, nous le sommes tous !» répondit Cortés. Alors avant de fondre en larmes, il s'écrie « Dieu et Sainte Marie de Séville !» Cortés se rapproche de lui. Il est désormais certain que cet homme, qui a tous les traits d'un autochtone, est en réalité l'un des leurs. Il se demande intrigué. Comment un sujet du roi des Espagnes pouvait-il se trouver parmi les Mayas du Yucatan ? Comment a-t-il pu se fondre à ce point parmi eux alors que les Espagnols commencent à peine à poser les pieds dans cette région? L'homme lui apprend qu'il s'appelle Jerónimo de Aguilar et qu'il n'est pas tout seul. Un autre compatriote du nom de Gonzalo Guerrero se trouve aussi parmi les Mayas. Cortés laisse Aguilar retourner auprès de son maître Maya pour négocier sa propre libération. Elle lui fut accordée. À partir de là, il se déplaça jusqu'à l'endroit où vivait Guerrero. D'ailleurs, ce ne fut pas aisé de lui parler au début, puisqu'Aguilar est aux yeux des Mayas un esclave. Et un sous-homme ne peut s'adresser à une personnalité importante comme était devenu Guerrero. Mais celui-ci le désigna comme une connaissance, et ils purent enfin échanger de vive voix. Aguilar lui présenta la lettre de Cortés. Après une lecture attentive, Guerrero lui annonce qu'il ne souhaite pas le suivre. Et les raisons sont évidentes. D'abord sa femme, une princesse maya qui avait mis au monde leurs 4 enfants. Ensuite, son statut s'était transformé, lui ouvrant un avenir confortable et heureux au sein de ce peuple. Guerrero était effectivement devenu un maya à part entière. Son refus de rencontrer Cortés scellera l'incroyable destin de ces 2 hommes. « Après avoir été unis dans le malheur, ils choisissent deux camps opposés. Et suite à cet ultime échange, les deux naufragés ne se verront plus jamais. Et pourtant, 10 ans auparavant, les deux compères ne se connaissaient même pas. Geronimo, qui est né entre Séville et Cordoue, est un homme d'église, alors que Guerrero est un simple marin, né à Palos. Et c'est d'ailleurs de ce port que partit Christophe Colomb en 1492. En 1509, comme beaucoup de leurs compatriotes, ils embarquent pour le Nouveau Monde. Ils sont entraînés par le formidable élan d'exploration qui anime alors le royaume d'Espagne. En quête d'une vie meilleure, de fortune et de gloire pour Gonzalo, et pour Geronimo, l'objectif d'y répondre à la foi chrétienne. Il a fallu 20 ans aux Hispaniques pour conquérir le Yucatan, alors qu'en seulement 2 ans, Cortés parvient à anéantir l'Empire aztèque. Il a su tirer parti de l'étonnement que suscite sur les Indiens le physique barbu des Espagnols, leur armure métallique, leur arme à feu et leurs chevaux cuirassés. Il s'empare de Tenochtitlan le 13 août 1521. Et sur l'emplacement de cette cité, il fondera la ville de Mexico. Et Aguilar a joué un rôle crucial dans cette chute rapide. Chez les Mayas, l'homme de foi avait appris à maîtriser leur langue. Un atout précieux pour Cortés qui lui avait demandé, après leur rencontre, de rejoindre son expédition maritime en tant que traducteur. Pour le chef conquistador qui souhaitait mêler diplomatie, intimidation et conversion au catholicisme, pour lui, un tel homme était un don du ciel. Après sa victoire sur les Aztèques en 1521, Cortés remercia Aguilar en lui accordant des terres au nord-est de la Nouvelle-Mexico. Il y mourut en 531, entouré de ses esclaves qu'il traitait du mieux qu'il pouvait, comme leur maître Maya l'avait fait pour lui et Gonzalo Guerrero 20 ans auparavant. De son côté, Gonzalo Guerrero, devenu chef militaire, aurait servi de stratège lors de la lutte des Mayas contre les conquistadors. En 1527, c'est lui qui aurait organisé l'efficace guérilla contre les troupes de Francisco de Montero, lequel aurait, comme Cortés auparavant, tenté d'envoyer une lettre au Castillan de la Jungle pour le convaincre de le rejoindre. Sans succès. En 1532, c'est à nouveau l'ex-naufragé qui aurait chassé de la région le conquérant Alonso de Ávila. Finalement, le 13 août 1536, dans la baie du Rio Ulua, dans l'actuel Honduras, il reçut un carreau d'arbalète dans le ventre, où il avait déjà été blessé par une arquebuse. Ses hommes l'ont emmené hors du champ de bataille et l'ont caché derrière des palmiers. Il a demandé de prendre soin de ses fils et pour le reste de ses hommes, plus d'un millier encore au combat, de continuer à se battre. Mais les Espagnols remportèrent la victoire et malheureusement les Mayas ont dû battre en retraite et le corps de Guerrero a été laissé dans le camp ennemi. Un grand chef autochtone fut capturé et ce dernier indiqua que parmi les morts de son camp figurait un Maya d'adoption, un Espagnol tué par un tir d'arquebuse. Certains Espagnols auraient par la suite affirmé l'avoir vu tatoué et habillé comme un Indien, mais barbu. Pendant la nuit, certains de ses hommes ont récupéré son corps et en guise d'hommage final, l'ont jeté dans la rivière Ulua, de sorte que le courant le mènerait à l'océan d'où il était venu. Cette aventure incroyable entre l'Européen Gonzalo Guerrero et les peuples autochtones témoigne de la disposition de certains êtres humains à s'ouvrir à l'inconnu et à embrasser de nouvelles façons de vivre. Guerrero a su s'adapter et gagner sa place au sein de cette civilisation maya. Si la majorité des explorateurs qui foulaient le sol de ces nouveaux mondes s'étaient sentis plus attentifs et respectueux envers ces civilisations, au lieu de les piller, de les massacrer et de les convertir de gré ou de force à une nouvelle religion, l'histoire serait bien différente. Mais soyons réalistes. Bien avant l'arrivée des Européens, les peuples préhispaniques se faisaient déjà la guerre et s'entretuaient depuis des siècles. Enfin, l'humain est comme ça. Voilà, cette chronique est terminée, je vous dis à bientôt.